Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment content, une fois de plus, de vous rendre visite. Et j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Et j'ai quand même mis quelques diapositives. Cela vous permettra de suivre un peu le développement du message. Je n'ai pas trouvé un titre très original, hein. J'ai mis juste ce qui s'est passé dans ce passage. Le choix du 12e apôtre. De Matthias. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème-là ? Parce que, comme tout à l'heure, cela a été... Oui, s'il te plaît. Merci. C'est chouette, ça. On voit ce qui est projeté, c'est ça ? Ah, c'est bien. C'est... Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte-là ? On va dire que c'est quand même une prédication de circonstance. Tout à l'heure, cela a été rappelé. Nous étions, il y a quelques jours, c'était l'Ascension. Et la semaine prochaine, c'est la Pentecôte que nous célébrons en Église. Et il y aura aussi un jour férié. Et donc là, nous sommes entre les deux. Et ce texte-là parle justement de ce qui se passe entre Jésus qui est parti au ciel et le jour de la Pentecôte, où les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit à partir de Actes chapitre 2. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais rendre visite à l'église de Saint-Maur, ça tombe à cette période-là, et je vous avoue que j'ai jamais vraiment étudié ce passage. Alors je me suis dit, bon, allez, autant faire l'effort cette fois-ci pour l'étudier, y réfléchir. Alors c'est un passage, je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention, on lit tout ce qu'il y a avant sur l'ascension, la croix, la résurrection. Tout ce qu'il y a après, à partir de la Pentecôte, à partir du don du Saint-Esprit. Mais alors l'élection de Matthias, plus l'épisode où Pierre raconte ce qui s'est passé à Judas, qui est presque un film d'horreur, on n'y fait pas toujours attention. Alors je me suis dit, pour une fois, je vais le regarder, je vais l'étudier. Et je vais partager ce que j'ai retenu. Alors, le texte a déjà été lu. D'habitude, moi, dans l'église, c'est à ce moment-là que je lis le passage biblique. Donc, acte 1, versets 15 à 26. C'est la version de la Semeur. Et c'est juste après la lecture, en général, que je fais la prière. Mais je vais avancer. Alors, juste pour préciser... Où est-ce qu'on en est ? Parce que le livre des Actes parle de tout ce qui se passe depuis, on va dire, la mort du Christ, son apparition et jusqu'à Rome. Alors, le petit développement du salut avec Jésus à la croix. Alors, le troisième jour, le tombeau était vide. Ensuite, pendant 40 jours, après sa mort, il est apparu à ses disciples. Il est paru une fois en même temps à 500 disciples. Et puis, à partir du 50e jour, ce qu'on appelle la Pentecôte, qui est une fête parmi les trois plus grandes fêtes juives, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus a apparu 40 jours, il est allé au ciel. Et là, il existe une période que j'ai mis en noir, 10 jours. Une petite période, une période d'attente. Une période de réflexion, une période où les disciples vont se réunir dans la chambre haute, là où ils avaient mangé le repas du Seigneur, juste à côté du temple, pour prier. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, Jésus a vécu avec eux pendant 40 jours, ils ont mangé, bu, ils ont fait plein de choses ensemble, et tout à coup, Jésus s'élève dans le ciel. Dans la version de la Semeur, il est dit qu'il y a un petit nuage qui le voile. Et là, plus rien. Alors moi, si j'étais disciple, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Bon, il a dit qu'il partirait aussi, parce que s'il ne part pas, il ne va pas envoyer le Consolateur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il existe, c'est vrai, dans la Bible, des fois où Dieu annonce quelque chose, et il y a un silence qui se passe là, Il y a une attente qui est là. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout à l'heure, il y a une sœur qui est venue, qui a témoigné. Elle a dit qu'elle a lancé un dossier pour demander un logement. Et là, elle a attendu. Elle a attendu, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'ils vont me répondre? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir la réponse de mon logement? Jésus a dit qu'il a enverré le Saint-Esprit. Il est parti. Il n'a pas dit quand est-ce que le Saint-Esprit viendrait. Et là, les disciples, ils sont là dans une période de silence, une période d'attente. Alors, nous aussi, nous sommes dans une période d'attente dans notre vie, dans l'histoire du salut. Jésus a dit qu'il reviendrait en personne, et nous sommes entre deux venues du Christ, et nous attendons. Et des fois, l'attente paraît longue. Des fois, on aimerait que ça arrive pour être libéré de tout ce que nous vivons, du bien et du mal. Mais c'est un laps de temps qui est là, peut-être bien, bien long pour nous. Mais alors, pendant ce laps de temps, cette période de silence, ils vont pas, bon, ils ont prié, ils sont pas allés évangéliser tout de suite. Mais ils ont élu un 12e apôtre. Pierre, il s'est levé, il était responsable des 12, et puis il y avait environ 120 personnes. Et il a dit, il faut qu'on remplace Judas. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui va être avec nous, témoin de la résurrection, du Christ, etc. Donc ils ont choisi quelqu'un, Matthias. Alors il me semble que cette élection, qui peut paraître anodine, il me semble qu'il y a quand même deux choses importantes dans ce laps de temps qui, quelque part, marquent un peu l'avant-Pentecôte. Et je vais juste développer ces deux points-là avec vous. Il me semble que cette élection souligne avant tout la souveraineté de Dieu. Il me semble que cette élection, ce choix de Matthias, il nous rappelle que même si on a l'impression que des fois il est absent, Dieu est absent, eh bien il reste quand même souverain dans toute chose. Dans le passage que nous avons lu, il y a deux faits quelque part qui nous montrent que Dieu reste souverain. Même si Jésus est parti, le Saint-Esprit n'est pas encore venu, les disciples sont un peu comme orphelins, sans parents. C'est un peu comme si moi je garde mes enfants, et je leur dis, vous restez là, je pars au boulot et maman va arriver. Et je pars, et maman n'arrive toujours pas, et ils sont là, ils attendent. Bon, c'est quand que maman va arriver, papa il est plus là, bon, les grands, c'est pas trop difficile, les enfants, les plus jeunes posent des questions. Eh bien, c'est un peu la même chose, Jésus est parti, le Saint-Esprit n'est pas encore venu, et ils attendent. Mais on voit que dans ce passage qui parle de l'élection de Matthias, l'apôtre, en tout cas Pierre, va mener de bout en train l'élection et Luc va montrer que Dieu maîtrise la situation. Alors quand on lit ce passage, on constate que Dieu est souverain sur toute chose. Tout d'abord, Pierre va montrer par les Écritures que la trahison de Judas était non simplement prévue, mais elle était voulue et c'était écrit dans la Bible. Il le dit, hein, il fallait que s'accomplissent les Écritures. Verset 16. Le Saint-Esprit, il a parlé à travers David dans les psaumes à Judas, qui a conduit les prêtres à venir arrêter Jésus. Alors c'est une affaire qui a mal tourné, mais lorsque Pierre il annonce cela, il dit, c'est vrai, c'est terrible ce qui s'est passé. Mais Dieu l'avait voulu. Oui, c'est terrible que un de nous, les apôtres, ait trahi Jésus, mais Dieu l'avait voulu. Et il veut rassurer, mais il veut aussi se dire qu'il faut aller de l'avant, et il veut rester confiant en Dieu. Même si Jésus est parti, le Saint-Esprit n'est pas venu, mais Pierre souligne la souveraineté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et que la trahison de Judas découle d'une décision de la part de Dieu. Alors il le montre avec les Écritures, il cite au verset 20 deux passages des psaumes, le psaume 69, verset 36, ainsi que le psaume 109, verset 8. Voilà, il fallait qu'il trahisse, il faut que quelqu'un prenne en charge sa place et sa maison doit rester vide. Jésus n'est plus là, le Saint-Esprit n'est pas encore venu, mais Pierre insiste sur le fait que Dieu maîtrise toujours la situation. Et Dieu montre par ce passage-là, avec la citation de ces versets, qu'il maîtrise l'histoire, les circonstances. Et ce passage nous rappelle que chaque événement, quel qu'il soit, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, dans les petits détails et même dans les grandes lignes, sont entre les mains de Dieu, sont dans les plans de Dieu. On m'a souvent demandé la question, qu'est-ce qu'on pense de Judas? Est-ce qu'il va être sauvé, pas sauvé? Il s'est suicidé? Est-ce que c'était prévu, pas prévu? Ce texte-là nous montre que oui, Dieu l'avait prévu. Et Pierre dira plus tard que même la mort de Jésus à la croix, nous le savons, a été prévu d'avance par Dieu pour le salut des hommes. Le deuxième exemple dans ce passage-là qui nous montre que Dieu reste souverain sur la situation, c'est l'élection de Matthias. Alors il faut remplacer Judas et c'est Dieu qui va diriger un peu les choses. Tout d'abord, verset 24, c'est dans la prière. Pierre fait une prière, hein, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, choisis celui que tu as... désigne celui, toi-même celui que tu as choisi. » Donc il remet tout entre les mains de Dieu par la prière, comme quand nous prions, nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu et nous reconnaissons que Dieu est souverain, que Dieu est maître de la situation. Il dit aussi « Seigneur, toi tu connais le cœur de tous les hommes et il n'y en a pas un seul qui t'échappe. » Et donc cette élection se termine aussi par un tirage au sort. Alors c'était une pratique courante de l'Ancien Testament, hein. Mais cette façon de tirer au sort montrait que la décision relève de la décision de Dieu. Et même le hasard, qui pour nous c'est le hasard, reste entre les mains de Dieu. Alors aujourd'hui on ne tire plus au sort. Dans certaines églises on le fait. D'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez la mission Morave qui a été mise en place par le comte de Sissendorf dans les années juste après Martin Luther. Il y a une mission du côté de... Bon, aujourd'hui, c'est la République tchèque, qui envoyait les missionnaires par tirage au sort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ils se réunissaient, comme nous, là, aujourd'hui. Ils mettaient tous les noms dans un panier et ils tiraient au sort celui ou celle qui devait partir en mission. Et il fallait toujours être prêt à partir. Et cette mission-là, la mission Morave, a fait des choses, alors que presque tous les protestants étaient silencieux au niveau missionnaire, cette mission-là est allée au bout du monde. Hein. Ils sont partis au Groenland, ils ont amené des Esquimaux à la foi. Au début, c'était très difficile, ils sont partis dans les Antilles, etc. Et donc, c'est un exemple de mission où ils tiraient au sort les gens pour partir. Alors, je ne sais pas si ça vous dirait qu'on fasse cette pratique pour celui ou celle qui va partir en mission, ou celui qui doit aller faire les trois ans à nos gens. Bon, d'accord. Et cette mission Morave, elle croyait vraiment à la souveraineté de Dieu. Non seulement elle tirait au sort les gens qui partent en mission, mais ils ont eu une chaîne de prières continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plus de 100 ans, pour toujours remettre toute chose dans les mains de Dieu. Et vous savez, la prière, c'est pas simplement demander des choses pour que les choses se passent comme nous on le voudrait, mais c'est demander les choses pour que les choses se passent comme Dieu, lui, le voudrait, et que sa volonté se fasse dans sa souveraineté. Donc il me semble que ce passage, même s'il paraît anodin entre l'ascension et la Pentecôte, nous rappelle que Dieu est souverain sur toute chose, sur la trahison de Judas, ainsi que sur l'élection de Matthias. Vous savez, nous aussi, nous sommes dans une période d'attente. Nous sommes entre deux venues du Christ. Nous sommes dans un laps de temps qui peut paraître très long. Un laps de temps où il se passe beaucoup de bonnes choses, grâce à Dieu, mais beaucoup de choses difficiles dans le monde et dans notre vie. Et souvent, lorsque le temps paraît long, lorsque Dieu semble être silencieux ou absent, c'est là qu'on se pose des questions. Et c'est là où on doit revenir à l'Écriture et revenir à la souveraineté de Dieu. Vous savez, comme moi, que nous vivons dans une situation avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors moi, je pensais à cette jeune fille, la Angélique, qui a été violée et tuée. Et hier soir encore, nous avons eu une attaque à Paris. Nous vivons dans une ère, comme diront les politiciens, nous sommes en guerre. Les temps sont pas toujours faciles. Et même économiquement, même si l'économie reprend, ce n'est pas toujours facile. Mais quelles que soient les circonstances dans le monde, dans le pays, nous devons nous rappeler, d'après les Écritures, comme Pierre l'a dit, que Dieu est souverain. Et même dans notre vie, lorsque parfois on a l'impression que c'est plutôt sombre, lorsqu'on vit par des moments difficiles comme le deuil, la recherche d'un travail, la recherche d'un conjoint ou la recherche d'un appartement et que les choses semblent ne pas toujours se développer ou stagner, il faut toujours revenir à l'Écriture et se rappeler que Dieu est souverain et lui faire confiance malgré les circonstances. En quoi est-ce que cette élection va appuyer ce laps de temps, la souveraineté de Dieu ? Mais il me semble aussi que la deuxième chose, c'est que cette élection nous montre que même lorsque l'on a l'impression que Dieu semble absent ou silencieux, nous devons quand même faire face à nos responsabilités. Et nous devons quand même agir en conséquence de notre foi. De même que nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, je pense qu'ici, le passage souligne quand même la responsabilité de Judas et aussi la responsabilité des 12 ou des 11 à trouver une 12e personne. Alors, on a vu que Pierre va organiser les élections de Matthias. Mais Pierre s'attarde, versets 17 et 18, à expliquer les faits. Alors avant de citer les Écritures, il explique comment Judas, verset 17, il a eu sa part dans le service, puis il a perdu quelque part son apostolat, c'est-à-dire son ministère apostolique. Il est décompté parmi nous, c'est-à-dire que Dieu l'avait vraiment choisi et il a eu vraiment sa part dans le service qui leur a été confié. Pierre, il attache un peu tout ça. Il montre que Judas avait quelque part le ministère que Dieu lui avait confié. Mais que Judas a vendu Jésus et que avec cet argent, il a acheté un champ pour en faire sa propriété. Alors là, il y a une discussion entre est-ce que c'est vraiment Judas qui a acheté le champ ? Parce que Matthieu 27 nous mentionne que ce n'est pas Judas qui a acheté le champ. Mais que ce sont les grands prêtres et les anciens, c'est-à-dire les responsables du peuple, qui, avec l'argent de Judas, une fois qu'il est mort, ont acheté le champ. Mais on voit bien que Pierre, ici, et donc Luc, quand il écrit ce passage-là, il veut remettre la responsabilité à Judas, et pas simplement aux autres. Il le tient pour non seulement un apôtre, mais il le tient aussi pour responsable d'avoir vendu Jésus et d'avoir acheté ce champ. C'est vrai que la souveraineté de Dieu s'exerce même sur le mal. Mais la souveraineté de Dieu s'exerce toujours de façon à ce que les créatures, c'est-à-dire les êtres humains, soient responsables du mal ou du bien qu'ils font. En Luc, chapitre 22, verset 22, il dit que oui, c'est vrai, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé. Oui, Dieu a décidé que Jésus va mourir. Mais un peu plus loin dans le passage, il dit, mais malheur par l'homme par qui il est trahi. Et vous voyez, même si on mentionne que Dieu est souverain, c'est lui qui avait prédit, c'est lui qui avait voulu la trahison de Pierre, mais Judas paye aussi pour ses actes à lui, pour sa propre responsabilité. Et donc, ce passage, ce texte, même s'il met en avant la souveraineté de Dieu sur toute chose, sur le départ de Jésus, sur la venue du Saint-Esprit, sur la trahison de Judas, il souligne quand même que Judas a eu sa part de responsabilité dans sa trahison. Il ne peut pas dire, oui, non, c'est à cause de Dieu et c'est tout. Non, Judas porte cette responsabilité. Le deuxième exemple dans ce passage qui nous montre qu'on veut mettre quand même en avant la responsabilité des apôtres, c'est par rapport à l'élection. Alors, ils étaient environ 120. Ils auraient pu mettre 120 noms et tirer au hasard. Non. Tout d'abord, Pierre mentionne dans les versets quel type de personnes ils vont choisir. C'est quelqu'un qui les a suivis depuis le baptême de Jésus-Christ jusqu'à la résurrection et qui va être avec eux le 12e apôtre pour être témoin de la résurrection du Christ. Lorsque les apôtres font cela, pourquoi est-ce qu'ils choisissent un 12e apôtre ? Les apôtres ont conscience qu'ils ont une mission importante. Jésus leur a confié, acte 1-8, d'être des témoins de Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres ne veulent pas simplement se croiser les bras en cette absence du Christ, mais ils ont conscience qu'ils vont être témoins des faits et des gestes de Jésus-Christ. Ils vont quelque part représenter le tout nouvel Israël, le noyau solide, fondation du nouveau peuple de Dieu qui va avoir cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Vous savez, dans les fêtes juives, la Pentecôte dans le peuple d'Israël, cela représente lorsque Moïse était sur le mont Sinaï et qu'elle a eu les tables de la loi qu'il a données au peuple. Et là, il y a eu une nouvelle alliance entre le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et Dieu. Et là, dans Acte 1 et 2, il se prépare aussi une nouvelle alliance qui est fondée sur le sang du Seigneur Jésus-Christ et qui va commencer en Acte 2. Donc la Pâque a eu lieu, l'alliance va venir et là, il faut qu'il y ait les 12 tribus d'Israël qui soient réunies. Et Pierre et les 11 apôtres, ils ont bien compris à ce moment-là, ok, le Christ n'est pas là, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, mais on ne va pas se croiser les bras. Nous devons faire face à la responsabilité qui nous revient d'être la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et là, ils vont représenter quelque part ce nouveau peuple de manière plénière, entière, ce nouvel Israël, les 12 du nouveau peuple de Dieu qui va représenter et qui va développer et qui va apporter l'évangile au monde entier. Et donc, il me semble que ce passage nous rappelle que même si des fois on a l'impression que Dieu est absent, qu'il ne semble rien faire, que nous sommes appelés quand même à prendre nos responsabilités. Et je crois que c'est aussi un enseignement pour chacun d'entre nous, à ce que nous agissions selon notre foi, notre conviction, même lorsque Dieu semble absent. Alors ça veut dire quoi ? Tout à l'heure je l'ai dit, oui, Dieu est souverain. Il maîtrise l'histoire, tout est entre ses mains. Même le hasard relève de la décision de Dieu. Et pour notre vie aussi, nous croyons en la souveraineté de Dieu, que Dieu peut tout faire. Mais est-ce que c'est une raison pour autant de se croiser les bras ? D'attendre, certes de prier, mais de croire que, bon, voilà, les choses vont se dérouler d'eux-mêmes. Il me semble que ce passage, même s'il souligne fortement la souveraineté de Dieu, il rappelle quand même qu'au-delà de la souveraineté de Dieu, c'est à chacun d'entre nous d'agir en fonction de notre responsabilité dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, nous sommes entre deux venues du Christ. Dieu est souverain, mais nous avons à prendre notre responsabilité. La première responsabilité que nous devons faire, c'est bien sûr prendre une position par rapport à la croix du Christ. Et c'est pas simplement « oui, je croirai quand Dieu m'aura appelé dans sa souveraineté ». Non, c'est « est-ce que oui ou non, Jésus est vraiment mourir à la croix pour nos péchés, pour mes péchés, et de s'engager vraiment avec lui ou pas ?» Il me semble que souvent, on balaye les choses en touche pour dire « oui, c'est Dieu qui fait les choses ». Pour pouvoir se décharger des fois de notre responsabilité. Et je crois que Dieu, non, au contraire, nous prend pour des êtres humains et il tient compte de nos choix et de nos actes. Je pense que oui, Dieu gouverne les choses, mais dans sa gouvernance, il prend en compte nos choix et notre responsabilité d'agir, nos actions, pour ou contre, ou quelque part qui vont compléter le déroulement de son plan divin. Alors souvent, oui, comme je disais, on se décharge sur Dieu. Oui, bon, Dieu est souverain, il fera ce qu'il veut. En fait, on se décharge souvent de notre responsabilité. Je sais pas, vous, par exemple, je dis à un jeune dans l'église, bon alors, quand est-ce que tu vas trouver l'âme sœur ou quelque part ton conjoint ? Je sais pas si vous en avez des cas comme ça. Et des gens qui vous disent oui, mais bon, quand Dieu voudra. Hein. Alors je lui fais oui, mais alors ils font rien quelque part pour trouver quelque part l'âme sœur. C'est pas en restant chez toi que tu vas rencontrer des gens. Hein. Si, sur Facebook et tout ça. Mais oui, Dieu est souverain. Tu vas rencontrer l'âme sœur quelque part quand Dieu l'aura décidé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te décharges de tes responsabilités. Prends soin de toi, coiffe-toi, travaille, habille-toi bien, ménage-toi. Voyez ? Et c'est pas bon, on verra quand Dieu aura trouvé. Ou bien, oui, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, Dieu voulant, Inch'Allah. Mais non, je crois que c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités. Oh, l'Église, elle grandira quand Dieu l'aura voulu. Hein. L'Église, elle ira mieux quand Dieu le voudra dans sa souveraineté. C'est lui qui est souverain, c'est son Église. Il fait qu'elle va bien ou mal quand il le voudra. Non, c'est vrai, il est souverain, mais c'est ta responsabilité et la mienne de faire en sorte que l'Église aille bien ou pas bien. Oh, Dieu, il appellera les gens à lui quand il le voudra. Et vous savez que pendant longtemps, les protestants n'ont pas évangélisé ou ne sont pas partis en mission sous prétexte que Dieu était souverain et qu'il appellerait les gens à lui quand il le veut. Hein. Au nom de la souveraineté de Dieu, ben écoutez, on va attendre et puis Dieu, il fera venir les gens quand ils viendront. De toute façon, ils ont entendu. S'ils veulent croire, Dieu changera leur cœur. Jusqu'à ce que William Carey change les choses. Il dit non, Dieu est souverain, certes, mais nous avons aussi notre responsabilité des choses. Nous devons nous y préparer. Nous devons prier dans ce sens. Nous devons mettre l'argent. Nous devons former, préparer des personnes pour pouvoir partir en mission. Il a développé toute une stratégie missionnaire. Ouais. Oui, voilà. Ne balayons pas trop en touche sur la souveraineté de Dieu, parce que Dieu est souverain, mais prenons aussi notre responsabilité. Celle d'agir selon la foi que Dieu nous a donnée pour l'Église, pour la vie, et même aussi pour notre caractère. Parce que je rappelle que, oui, certes, Dieu produit en nous le vouloir et le faire, mais c'est à nous de faire fructifier notre salut. Et oui, la souveraineté de Dieu nous permet de ne pas être trop orgueilleux et de ne pas dire « c'est grâce à moi que j'ai réussi ». Mais nous devons quand même y travailler. Et vous savez, même la sainteté, cela relève de la souveraineté de Dieu. Mais je dois faire mes efforts du mieux possible pour abandonner le péché, pour abandonner mon sale caractère ou mes mauvaises paroles, mes mauvaises habitudes. Oui, Dieu est souverain. Ça fonde quelque part notre foi, notre confiance. Et cela nous rend humbles. Mais on doit travailler fortement dans toute chose. Dans la sainteté, dans l'Église, etc. Vous savez, souvent, on a opposé souveraineté de Dieu et responsabilité des hommes. Dieu fait sa part, on le laisse faire, et puis après, moi, je fais ma part. Et donc, tant que Dieu il a pas fait son truc, bon, on attend un petit peu. Souvent, on a mis ces deux concepts-là en opposition ou en limitation de l'un par rapport à l'autre. On croit que le concept de la responsabilité humaine limite celui de la souveraineté divine. Et souvent, on dit, voilà, soit on parle trop de la responsabilité de Dieu, on dit, voilà, Dieu est souverain et nous, on est quelque part que des automates et on est que, voilà, c'est une fatalité, bon, il l'a voulu et point. Ou trop souvent, on se prend pour Dieu, on met toute chose entre nos mains et Dieu n'est plus souverain sur les choses. Mais lorsqu'on va dans les textes, il me semble que la Bible affirme simultanément les deux. Mais malheureusement, sur cette photo, vous n'allez pas le voir, parce que dans la diapo juste avant, j'ai mis du rouge et du bleu pour montrer que souvent on oppose les deux, mais sur cette diapo qui on ne le voit pas, mais le rouge et le bleu sont ensemble, souveraineté de Dieu et responsabilité de Dieu vont de pair. Donc, on ne le voit pas ici, mais je vous le garantis, il y a du rouge et du bleu mélangé dedans. Et c'est pas simplement Dieu fait ce qu'il veut et moi je suis juste un pantin ou moi je fais ce que je veux et Dieu laisse-moi vivre ma vie. Non. Dieu avance dans sa souveraineté et nous avons à prendre notre responsabilité dans les choses. Et il faut être équilibré. Et pas simplement mettre l'un en avant aux dépens de l'autre. Alors qui que tu sois, où tu en es dans la foi, lorsque tu as tendance à trop tendre vers Dieu verra, eh bien j'ai envie de te dire non, prends tes responsabilités. Et lorsque tu as trop tendance à dire tout dépend de moi, je vais faire ci et je vais faire ça, je vais te dire non, Dieu est souverain, c'est lui le maître des choses. Et ce n'est pas entre tes mains. Cela ne dépend pas que de toi que les gens vont se convertir ou que l'Église va grandir. Fais tout ce que tu as à faire, mais n'oublie pas que Dieu est maître des choses. Donc, si tu accentues trop sur la souveraineté de Dieu, je vais te dire non, n'oublie pas d'affirmer en même temps la responsabilité humaine, ta responsabilité. Et inversement, si tu crois que tout dépend que de toi, tu vas guérir tout seul, que tu vas avancer tout seul, non. Remets tout entre les mains de Dieu, car ta vie est entre ses mains. Voilà. Donc il me semble que ce passage, qui peut paraître anodin, nous rappelle que Dieu est souverain, mais aussi que nous avons notre responsabilité à faire. Et on le voit dans l'exemple de la trahison de Judas. Dieu l'avait prédit, mais Judas est responsable à 100%. Et dans l'élection de Matthias, oui, c'est Dieu qui va choisir Matthias. Mais les apôtres ont discerné tout ce que Dieu attendait d'eux, leur mission et ce qu'ils ont à faire. Et ils ne se sont pas croisés les bras. Tout ce que j'ai envie de dire, merci Matthias. Alors, il y a quand même dans ce passage le choix entre Matthias et Joseph, Barnabas, même, il a trois prénoms, Joseph, Barabbas et Justus. Alors je remercie le Seigneur que ce soit pas Barabbas qui a été choisi, je sais pas vous, et que ce soit Matthias. Pourquoi ? Parce que entre Barsabbas, Barabbas et Barnabas. Je ne sais pas vous, j'ai un peu de mal. Alors, Barnabas, vous savez qui c'est, hein, c'est le fils de l'exhortation. Barsabas, c'est celui qui a été relâché à la place de Jésus. Et Barabbas, c'est celui qui n'a pas été choisi. Et finalement, c'est Matthias. Ce passage nous montre que dans cette période d'attente, dans ce silence, Jésus n'est plus là, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé, les disciples sont conscients que Dieu est souverain et qu'il faut se préparer à quelque chose de plus grand qui arrive. Et c'est un peu comme un mariage, une alliance qui va avoir lieu et on attend le dernier témoin qui n'est pas là, qui s'est élevé en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Et là, il arrive et le maître de cérémonie peut dire « Place à la cérémonie, les 12 sont au complet, place à la Pentecôte. » Et je crois qu'on peut se dire « Oui, bon, ils auraient pu vivre la Pentecôte avec les 11. » Non, il fallait ce 12e. Comme dans le film « Le 13e guerrier », je ne sais pas si vous l'avez vu, pour que la prophétie se réalise, Antonio Banderas est le dernier guerrier à pouvoir réaliser la prophétie. Merci Matthias, même si ton prénom n'apparaît qu'une fois dans la Bible, grâce à toi, la Pentecôte peut arriver. Et grâce à toi, nous sommes confiants de ce que, même si on a l'impression que des fois, Dieu paraît silencieux, ce laps de temps paraît long, nous croyons que Dieu est souverain. Nous croyons que nous devons quand même agir en fonction de nos compétences, de notre responsabilité. Place à la Pentecôte, mes amis, qui va arriver la semaine prochaine. Et vous savez, quand j'ai lu ce passage, je pensais à une dernière chose. Je suis vraiment content que ce 12e apôtre ait été choisi. Il y a quelques semaines, j'étais en Israël avec un petit groupe et nous avons rencontré un rabbin, le directeur de l'Institut du Temple à Jérusalem, quelqu'un de très important, qui est français, il parle français. Et à un moment, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que moi, qui fais partie des Goïm, c'est-à-dire des nations, est-ce que je peux devenir juif et faire partie du peuple de l'Alliance? Et là, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous les Goïm, vous avez 7 commandements à suivre. Nous, les Juifs, nous en avons 613. Alors, reste là où tu es. Moi, je reste là où je suis. Et là, j'ai bien compris que je n'avais pas le droit à entrer dans le peuple de l'Alliance. Mais merci, Matthias, merci les 12, de ce que tous les 12 vous représentez aujourd'hui, le nouveau peuple d'Israël. Celui qui va être baptisé du Saint-Esprit et qui va ouvrir les portes du royaume à toutes les nations, vous et moi y compris. Et quand je pense à ça, je me dis merci Seigneur Jésus, tu es venu, il est parti, il va envoyer le Saint-Esprit, mais entre ces deux périodes-là, les apôtres ont pris leurs responsabilités en main. Et ils ont fait confiance à Dieu dans le choix du 12e apôtre. À partir d'aujourd'hui, nous allons vivre cette période entre les deux ponts d'une manière tout autre. Plus jamais comme avant. Et nous allons nous rappeler qu'entre l'ascension et la Pentecôte, il s'est passé quelque chose qui est aussi important que la Pentecôte, ce choix de ce 12e apôtre. Un choix basé sur la souveraineté de Dieu et basé sur la responsabilité des apôtres à être ce nouveau peuple, ce noyau du nouveau peuple uni en Jésus, avec cette nouvelle alliance fondée par le sang au Seigneur Jésus. À nous aussi maintenant de vivre ce laps de temps qui nous est imparti, ce silence de Dieu, confiant dans la souveraineté de Dieu. Quelle que soit ta vie, même si tu passes par des hauts et des bas, une souffrance, un deuil, une recherche qui ne se interminable. Dieu a ta main dans ta vie dans ses mains. Et enfin, ne nous croisons pas les bras, mes amis. Nous sommes appelés à vivre pleinement notre responsabilité pour la croissance de l'Église, pour notre croissance chrétienne, de manière active, sans se croiser les bras et sans orgueil aussi. Et vivons tout cela dans la joie. Je vais prier que le Seigneur nous accompagne à mettre notre confiance dans la souveraineté de Dieu et avancer avec la tâche et les responsabilités qu'il nous a confiées les uns et les autres. Amen. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci de ce que tu es venu nous chercher en Jésus, nous pécheurs, rebelles, nous qui sommes loin de toi. Et tu nous as appelés, Seigneur, à former ce peuple, le peuple, ce nouvel Israël, dans le sang du Seigneur Jésus. Merci pour ce passage qui nous rappelle que tu es souverain en toutes choses, Seigneur. Dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles de notre vie et de ce monde, aide-nous à fonder notre vie, notre confiance en toi pour avancer. Tu connais la vie de chacun et chacune ici, Seigneur. Tu vois que certains ont le cœur qui pleure aussi parfois, même si on ne le voit pas sur leur visage. Mais je te prie que tu nous renouvelles et que tu sois avec nous, Seigneur, pour avancer. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas simplement nous croiser les bras et compter simplement sur ta responsabilité ou ta souveraineté, mais que nous puissions agir avec la force que tu nous donnes, avec l'espérance que tu nous as confiée à vivre pour toi pleinement, Seigneur, dans notre vie et dans ce monde. Utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous encourage et qui nous édifie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.